Radio Django, la rose des vents.
Dans le cadre de cette journée consacrée aux 25 ans de la grève des femmes de 1991, nous continuons dans la rose des vents, Daniel, avec une autre invitée qui milite depuis plus de 50 ans. On dirait presque que c'est une vocation.
Presque. La trajectoire de notre invitée nous permettra de comprendre comment naît une conscience féministe et d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur les raisons de cette mobilisation hier et aujourd'hui. Un combat qui doit être collectif et qui s'adresse à toutes les femmes et tous les hommes solidaires, sans distinction.
Sans distinction, là, je ne suis pas sûr de bien comprendre.
Alors, je m'explique. Lors de la préparation de ce sujet, je pensais me centrer sur la participation des femmes migrantes à cette journée du 14 juin 1991. Or, on me rappela vivement que cette journée de grève et de mobilisation concernait la défense des droits des femmes et l'expression de la colère pour dénoncer les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Or, la défense de l'égalité salariale et l'obtention d'une meilleure loi sur l'égalité au cœur de cette manifestation commençait par éviter de faire une distinction entre les origines de femmes, et le combat amorcé en 1991 englobait toutes les femmes avec un grand F.
Alors, pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Mariella Muri. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes psychopédagogue, ancienne assistante sociale et responsable de la formation continue au service de protection de la jeunesse. Vous avez aussi travaillé comme collaboratrice scientifique à l'IDEAP, l'Institut des hautes études en administration publique, et même à la Croix-Rouge. Un joli pédigré, hein. Vous étiez à la Croix-Rouge comme responsable du premier centre d'accueil des réfugiés du canton de Vaud. C'était à Vidy, et ceci depuis 1981. Vous étiez la première élue d'origine colombienne au conseil communal et ancienne députée au grand conseil vaudois. Vous avez effectué plusieurs mandats politiques et associatifs. Vous vous êtes engagée sur plusieurs fronts: accueil de réfugiés, protection des jeunes, politique familiale, formation, intégration des immigrés. Et votre combat s'illustre notamment par vos différentes initiatives parlementaires et la lutte pour l'égalité et promotion des droits des femmes. Vous avez été plusieurs années présidente de la commission égalité du PSV, le Parti Socialiste Vaudois, et membre du comité directeur. Et vous occupez aujourd'hui le poste de déléguée des femmes socialistes à la coordination du Parti Socialiste Suisse. Quel était alors votre principal cheval de bataille durant toutes ces années, Mariella Muri?
Bien, il y a eu effectivement plusieurs. Mais,
une cavalerie de chevaux de bataille.
Et c'est difficile de synthétiser ici. Mais c'est vrai que j'étais hyper surprise de savoir que depuis plus de 50 ans, les femmes de ce pays attendaient une assurance maternité. Et cette langue, cette attente, ça m'a énormément frappée. Et c'est vrai que la lutte pour une véritable assurance maternité, c'était déjà mon premier, si je pourrais dire, premier engagement comme ça, politique et national, parce que c'était une lutte nationale qu'on a dû mener depuis plusieurs années.
Un combat qui reste emblématique. Travail Suisse, organisation fêtière nationale, vient de lancer une initiative populaire fédérale pour un congé de paternité raisonnable en faveur de toute la famille. Est-ce que vous allez soutenir cette initiative?
Oui, naturellement, on va la soutenir. Mais il faut dire que déjà, en 1993, les femmes militantes, syndicalistes, camarades socialistes, y compris, on avait lancé un manifeste, un manifeste pour une véritable assurance maternité, dans lequel on inclut également déjà un congé parental de 3 semaines. Nous avons lutté pour le congé de 16 semaines, mais déjà à cette époque-là, on a inclus le congé parental.
Mais quels étaient les principaux arguments qui vous ont permis de défendre ce projet qui s'adressait particulièrement aux employés de l'État?
Oui, là, c'était le projet, la motion que j'avais mise. Vous vous référez à une motion qu'effectivement, dans toutes ces luttes qui continuent et qui va continuer, mais Mais mon espoir, c'est qu'un jour, on puisse gagner nos luttes et qu'on puisse se reposer. Hein, ça, c'est clair. Mais c'était effectivement la motion par rapport au congé parental, que, paternité, que j'avais déposée en 2006, si je ne me trompe pas. Et puis,
Nicolas Mattenberger.
Et avec Nicolas Mattenberger, parce que je trouve que dans les luttes, c'est bien. J'essaie de chercher toujours la parité et puis je me suis associée effectivement avec lui pour qu'on la dépose ensemble, d'ailleurs soutenue par beaucoup de collègues députés. Et puis malheureusement, elle était refusée en 2008 avec des arguments que aujourd'hui, j'ai pas envie de répéter les arguments de la droite parce qu'ils m'ont fatigué au Grand Conseil. Aujourd'hui, je vais pas fatiguer les gens qui nous écoutent avec des arguments de l'UDC qui continuent à être les mêmes.
Parce que vous pensez, si on fatigue les gens se lassent, ils votent contre. Vous pensez que les gens votent contre si on les fatigue?
Non, je crois qu'ils vont pas être contre. Il y a des raisons plus importantes que cette fatigue pour c'est des raisons structurelles du système capitaliste dans lequel on vit et puis du système patriarcal qui gère non seulement la Suisse, mais le monde entier depuis des années.
Mais finalement, dans ce combat concernant l'assurance maternité, on se rend compte que les hommes deviennent un petit peu solidaires. Par la force
oui,
des choses.
Oui, naturellement, parce que vous me posez la question quels étaient aussi les arguments. Pour moi et pour nous, toutes les militantes, l'accueil d'un enfant est une responsabilité.
Partagée.
Partagée. Absolument. Et puis c'est surtout aussi le fait qu'eux, ils doivent assumer aussi les responsabilités en tant que père, décharger aussi les femmes que pendant des années, ils ont assumé beaucoup de choses. Et puis, pour nous, c'était aussi très important, surtout les développements et les bons accueils de l'enfant. Il faut dire que c'est prioritaire tenir d'abord aussi ces bons développements de l'accueil dans la vie d'un couple ou d'une famille monoparentale. Ou, voilà.
Et dans cette évolution, donc, les deux parents, en fait, ont une place fondamentale. Mariella, vous militez depuis plus de 50 ans pour le droit des femmes. Pour Francine Dupanloup, une femme engagée dans le féminisme, qui a entre autres été très active dans l'organisation de la grève des femmes du 14 juin 1991, tout a commencé par un livre. Voici un court extrait du documentaire de Carole Roussopoulos, Debout, une histoire du mouvement des femmes, 1970-1980, dans lequel elle témoigne.
Au fond, j'ai été féministe au terme d'une belle journée de printemps parce qu'une enseignante avait eu le bon goût de me donner le livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. J'avais 14 ans et j'ai été dans un grand champ pour le lire, pour m'isoler parce que j'avais l'impression que c'était un événement. Je le sentais et à la fin du week-end, d'avoir lu ce livre, j'étais transformée. J'avais tout compris. J'avais compris le monde. J'avais surtout mis les mots sur les situations que je trouvais étranges, des injustices que j'arrivais pas bien à capter, des choses que je ressentais toute petite déjà. Et je me suis, au fond, réveillée au féminisme comme ça, au terme d'un beau week-end. Et ce livre de Simone de Beauvoir m'a jamais quittée.
Comment est née votre conscience féministe?
Oui, tout d'abord, je crois que c'est au sein de ma famille. Une famille très soumise, mais avec un père très patriarcal, très responsable, très travailleur, respectueux, mais aussi très autoritaire. Et une mère très intelligente, très humaine, très engagée à sa manière dans l'Église catholique, à l'époque, et aussi dans la solidarité, que ce soit dans les quartiers, que ce soit pour les prisonniers, pour les prisonniers, etc. Et c'est vraiment là où je trouve que c'est dans ce contexte, au sein de la famille, que est née cette première conscience féministe. Que pour moi, c'est cette prise de conscience, d'un engagement pour changer quelque chose. Et c'est vrai que je me suis engagée à plusieurs reprises là-bas. Et à 14 ans.
Vous avez, oui, très jeune, vous avez commencé à vous engager.
J'ai commencé à 14 ans. Je me rappelle qu'effectivement, on a fait une mobilisation, une grande marche de plus de 10 kilomètres, c'est tout petit pour nous, c'est vrai que c'était énorme, pour nous opposer au changement de la directrice du collège qui était changée. Et on avait les rumeurs de que c'était un homme qui allait être nommé. Et c'est vrai que c'était mon premier, si vous voulez, combat avec les collègues de classe des troisièmes années de collège et avec le soutien des associations des parents d'élèves dans lesquelles ma mère était aussi très active.
Et après ce combat, vous avez été vers d'autres combats, je veux dire dans d'autres univers qui ont été encore plus engagés.
Oui,
peut-être plus difficile,
difficile de synthétiser. Je suis venue ici à l'âge de 31 ans.
Mais avant ça, le dernier combat que vous avez mené en Colombie, cadre universitaire.
En Colombie, c'est vrai qu'on s'est battu pour l'éco-gouvernement à l'université. Et ça veut dire pour qu'il puisse avoir une représentation tant des enseignants comme des étudiants au conseil de direction, qui étaient toujours prises par les partis politiques qui se tournaient les pouvoirs. Et presque tout ça dépendait du gouverneur, de ce que les partis soient conservateurs ou libéraux à l'époque. Et c'était un fort engagement. Et idem au niveau des associations des enseignantes. Nous avons pu faire une grève. Et c'était la grève la plus longue des enseignants, je crois, dans l'histoire syndicale, en tout cas en Amérique latine, 9 mois, et toujours avec la solidarité, non seulement à l'interne du monde associatif, des autres syndicats, mais aussi avec la solidarité internationale. Et une grève que c'était même pas pour une augmentation des salaires, c'était contre un système éducatif qui allait être imposé avec toute l'affluence, naturellement, à l'époque des États-Unis.
Et c'est suite à cette grève que vous décidez donc de venir vous installer en Suisse ?
Non, pas du tout.
Pas tout à fait.
Je suis venue ici, voilà, par amour. Je suis mariée en Suisse, le père de ma fille. Et on pensait venir seulement pour une année, me montrer l'Europe, me présenter à la famille. Et puis, c'est clair que c'était l'année 75. Et quand nous sommes arrivés ici, on a voulu connaître d'abord, par exemple, les pays de l'Est. On a visité en voiture, savoir qu'est-ce que c'était le mouvement socialiste pour lequel on s'est battu là-bas, dans un pays dans lequel il régnait tant d'injustices. Et puis voilà, il y a eu des constatations que...
Et vous avez continué ce voyage, mais toujours dans la même philosophie.
Que, voilà, il y avait des constatations qu'on a continué qu'il fallait continuer à s'engager.
Vous décidez de vous installer en Suisse, vous découvrez un pays, des paysages, ces gens, et son fonctionnement au prisme des rapports hommes-femmes. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ?
À mon avis, c'est l'effet que, voilà, d'abord, ça m'a frappé en arrivant au niveau de la démocratie ici, la défense des droits humains aussi.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué dans le traitement des femmes en Suisse ?
Ah, mais écoutez, effectivement, une certaine lenteur dans les luttes. Dans les réponses, dirais-je, du politique, une réponse aux luttes féministes et puis aux luttes sociales. Et puis aussi, peut-être, le fait que j'ai fait la constatation de que l'engagement politique, y compris l'engagement féministe, est le résultat de ce monde qu'on vit, et puis qu'effectivement, toute cette discrimination reste universelle.
Et lors de la grève du 14 juin 1991, vous décidez en fait de participer et d'organiser en fait la grève qui a lieu au bâtiment administratif de la Pontaise. Quel est votre plus grand souvenir de cette journée d'action, plutôt originale ?
Écoutez, d'abord, on n'organise jamais une lutte collective au sol. C'était une organisation nationale. Et il y avait les commissions en gestation qui étaient créées, mais c'est vrai que les syndicats étaient très présents. Et au BAP, il est clair qu'on a été très, on s'est beaucoup mobilisé, on a tendu la lessive, on a créé des chansons, on a débrayé, on a même changé les photos des ministres de la justice de ce canton. Qui étaient tous des hommes, naturellement. Et on les a changés même d'une manière assez clandestine, il faut dire, même par des photos des femmes engagées, comme Simone Veil, Yvette Diaghi, entre autres.
Et au cours de cette journée un peu folle, qu'attendiez-vous à l'époque, en fait, de ces actions ? À l'époque, je dis bien.
La journée était très chaude.
Mais qu'est-ce que vous attendiez ?
Incroyable.
Les résultats escomptés.
C'était magnifique.
Une journée de folie.
C'était un plaisir incroyable. Et on luttait naturellement pour la l'égalité des salaires, salaire accompli égal pour une femme, salaire égal pour les hommes et naturellement pour la concrétisation de la loi sur l'égalité.
Bon, finalement, vous avez les mêmes revendications que maintenant, 20 voire 25 ans après. C'est toujours les mêmes luttes.
Ouais. Mais, ouais, malheureusement. Malheureusement. Et je reviens à ce que je disais. La lenteur ici,
les gens sont un petit peu... Oui, mais la Suisse n'est pas pire qu'un autre pays. On a un pays qui est relativement ouvert, où les choses peuvent se faire. On a un droit de parole.
Ah non, naturellement. Et au contraire, il y a beaucoup de choses qui sont avancées ici. Mais il y a quand même que les femmes ont dû attendre 50 ans au plus pour avoir une assurance maternité, quand c'est un droit, c'est toutes ces lacunes du service public et de la montre des entreprises au niveau des acquis des sociaux. Et puis, vraiment, c'est vraiment à presque refaire une autre grève, mais pas seulement les femmes. Toutes les citoyens et citoyennes de
Il
ces pays,
rester solidaire dans
parce
ça.
Que des citoyens, parce que la régression, elle est énorme.
Mais
Mariella, à mon avis,
faut-il être féministe pour s'engager ? Ce sera notre dernière question.
Non, je crois qu'il faut être
solidaire.
Je crois qu'on devient féministe en s'engageant, que soit au sein de la famille, que soit dans la place de travail, que soit dans les mouvements politiques. Je crois qu'on devient féministe en s'engageant.
Et les hommes deviendront féministes aussi.
On le souhaite, on en reparlera d'ici quelques années. Merci beaucoup, Mariella, d'être venue nous parler ce soir de cette thématique de féminisme et de votre expérience personnelle. Et on retiendra votre dernière phrase, s'engager et devenir féministe.
Merci à vous, et puis bonne continuation à Radio Django.
Merci beaucoup et puis merci à Daniel pour la préparation de ce sujet. Et puis on termine cette chronique avec un petit extrait musical, une archive qui a été retrouvée par Mariella, un titre composé par Marie-Joëlle Eby, ancienne collègue du SPJ et militante féministe de Copenhague à Bornéo, un titre d'anthologie pour toutes les femmes engagées.
De Copenhague à Bornéo, ou de Lausanne à Santiago, et de Berlin à Tombouctou, quand les femmes bougent, le monde bouge. C'était Clara Zetkin, Flora Tristan, Rosa Luxembourg, 1910 à Copenhague, elles étaient là, pour toi, pour moi. Avoir des droits, avoir des chances, un tant soit peu de liberté, et pouvoir prendre la parole, avoir des enfants désirés. Penser projet, penser métier, gagner sa vie tout simplement, avoir sa place dans ce monde-ci, et pas toujours compter pour peur. À Copenhague, à Bornéo ou à Lausanne, à Santiago et de Berlin, à Tombouctou, quand les femmes bougent, le monde bouge. Au fil des ans, mais lentement, les lois se sont mises à changer. On pouvait croire que dans la vie, les choses aussi allaient changer. Mais comme l'on dit, les filles de mai, dans notre tête et dans celle des mecs, il y a tout qui doit se remixer pour bien pouvoir se mettre en place. De Copenhague à Bornéo ou de Lausanne à Santiago et de Berlin à Tombouctou, quand les femmes bougent, le monde bouge. C'est aujourd'hui le grand moment de ne pas laisser tomber les bras à ceux et celles qui nous gouvernent. Rappelons-les à leur devoir. Comme l'ont fait Emma, Émilie, Lina, Sophie, Pauline ou Perle, tenaces, endurantes et créatives, nous sommes là, oh oui, bien là. De Copenhague à Bornéo ou de Lausanne à Santiago et de Berlin à Tombouctou, quand les femmes bougent, le monde bouge. Merci à vous toutes, femmes de l'ombre bien célèbres. Avec vous ici ce soir, nous sommes fiers d'être femmes. De Copenhague à Bornéo ou de Lausanne à Santiago